100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Une femme peut être bientôt à la tête du gouvernement du Kosovo. C'est l'une des possibilités du scrutin très ouvert qui attend les Kosovars ce dimanche. Ils doivent élire les 120 députés du Parlement. Et 20 ans après la fin de la guerre, dans ce petit territoire enclavé des Balkans, miné par la corruption et la pauvreté, beaucoup aimeraient que ces législatives amènent du changement. Vjosa Osmani, une juriste de 37 ans, promet cette rupture. Notre correspondant a suivi ces derniers jours de campagne à Pristina, la capitale, auprès des jeunes et avec la promesse d'établir enfin l'état de droit dans ce pays, le plus jeune du continent européen. Reportage de Louis Seyé.
Moi, je suis venue à ce meeting de la Ludeke parce que Vjosa Osmani, c'est la meilleure candidate pour les jeunes du Kosovo et moi, je vais voter pour elle, pour un futur meilleur pour le Kosovo.
Gelina ne cache pas son enthousiasme. À 19 ans, cette étudiante en architecture votera pour la première fois ce dimanche et ce sera pour Vjosa Osmani. Un peu plus loin, dans le parc de Pristina, Trimé est elle aussi venue au meeting.
Personne ne mérite plus que Vjosa d'être Premier ministre. Toutes ces années, elle a montré en tant que députée qu'elle défendait vraiment les intérêts de ses citoyens.
Candidate pour la Ligue démocratique du Kosovo, Vjosa Osmani est la première femme kosovare à se présenter au poste de Premier ministre. Elle s'appuie notamment sur sa jeunesse et son expérience de juriste pour convaincre les jeunes. C'est ce qui plaît à Trimé.
Vjosa connaît bien le droit, c'est une juriste très compétente et j'espère que ce sera suffisant pour avoir l'impact nécessaire sur le dialogue entre la Serbie et le Kosovo.
Née à Mitrovica, dans le nord du pays, Vjosa Osmani fait figure de femme aux mains propres dans un paysage politique miné par la corruption. Juriste formée aux États-Unis, elle veut rétablir la confiance des Kosovars dans leur justice.
Ce qui sera le plus gros changement, c'est qu'il n'y aura plus jamais de politicien qui passera un coup de fil à un procureur ou un juge. Plus de politiciens qui influenceront une décision de la Cour de justice. Personne ne pourra plus acheter une décision pour libérer quelqu'un ou obtenir la condamnation de l'un de ses opposants politiques.
Établir l'état de droit au Kosovo, c'est le véritable défi qui attend Vjosa Osmani. Au sein de son parti, la Ludeke, elle s'était opposée avec force à une coalition avec le Parti démocratique. Ce parti d'anciens combattants symbolise pour beaucoup la corruption et le népotisme. Il gouverne le pays depuis 12 ans.
Peu importe les quantités d'argent que l'on investit, la corruption ne peut pas être combattue par les corrompus. Le crime ne peut pas être combattu par ceux qui investissent aussi dans le crime. La première chose dont nous avons besoin est que ce pays soit représenté par des gens aux mains propres, par des gens crédibles. Nous avons besoin d'une nouvelle génération qui n'a pas seulement été éduquée dans les valeurs occidentales, mais qui ramène ces valeurs occidentales dans les institutions du Kosovo.
Vjosa Osmani a été investi par la Ligue démocratique du Kosovo. Kosovo, le plus ancien parti du pays fondé en 89, est largement dominé par les hommes. Son profil d'incorruptible a fait consensus. La candidate l'assure, son élection servira d'exemple pour les femmes kosovares.
Ça va être une véritable transformation pour cette société. Une société qui, pour être honnête, a été longtemps très patriarcale. Mais maintenant, on voit que les gens du Kosovo ont beaucoup évolué. Ils me font confiance parce que j'ai travaillé dur. Je n'ai jamais renoncé et il se trouve que je suis une femme. Et ça, c'est excellent parce que cela va encourager les femmes du Kosovo à ne jamais renoncer.
Cet optimisme, Vulnet Krasnici ne le partage pas. Ce militant des droits humains ne croit pas que cette candidature traduise une quelconque prise de conscience de la classe politique sur la question de l'égalité des genres.
Vjosa Osmani est simplement utilisée par son propre parti pour gagner plus de voix. Regardez, nous avons choisi une femme pour candidate, nous défendons les droits des femmes. Mais elle a été désignée par les hommes. Elle n'est pas là parce que les femmes du parti ont demandé à avoir plus de pouvoir.
Accès au travail, à l'école, à la santé ou à la propriété, la situation des femmes du Kosovo reste déplorable et bien loin des standards européens. Une situation qui ne va pas changer avec une élection, selon Vulnet Krasnici.
Nous avons déjà eu une femme présidente de la République. Est-ce que ça a changé quelque chose? Rien n'a changé. En Serbie, ils ont une femme lesbienne comme première ministre. Est-ce que les droits des LGBT se sont améliorés? Non. Ce n'est pas parce qu'on a une femme comme première ministre que les choses vont changer.
Favorite des sondages, Vjosa Osmani devra passer par des alliances pour pouvoir gouverner. 11 ans après l'indépendance du Kosovo, les chantiers qui l'attendent sont immenses. Pour réussir, elle devra d'abord persuader la jeunesse qu'il vaut mieux rester au pays que tenter sa chance à l'étranger.
Europe, it's not white. Europe, it's not a white man also.
Au Portugal aussi, une femme s'est invitée dans la campagne des législatives. Là aussi, les élections se tiendront ce dimanche. 21 partis sont en lice et parmi les nouveaux venus, il y a ce petit parti de gauche, Livre, libre en portugais, avec en tête de liste, et c'est une première, une enseignante originaire de Guinée-Bissau. Tout un symbole dans ce pays, le premier en Europe à avoir aboli l'esclavage en 1761. Joacine Moreira pourrait ainsi devenir la première femme noire à l'Assemblée nationale. Son portrait, signé Marilyn Darcy.
Grande, élégante, le rire toujours prompt à ponctuer ses propos, Joacine Catar Moreira est une jeune femme de 37 ans qui mène une campagne électorale surprenante, dérangeante. Joacine Moreira a la motivation des personnes qui ont dû lutter toute leur vie pour s'imposer. Et pas seulement parce qu'elle est femme et noire. Joacine Moreira.
Et où ? Je ne suis pas seulement une chercheuse universitaire obsédée par l'histoire du colonialisme, mais aussi une militante antiraciste et féministe. Et le principal objectif, quand on est militant, c'est de réussir à changer des choses dans la société. Mais pour ça, il faut un cadre politique. J'ai choisi de passer par la création d'un parti.
Joacine Moreira est licenciée en histoire contemporaine et docteur en études africaines, sa thèse ayant porté sur les questions de violence, de genre et d'instabilité politique en Guinée-Bissau. Aînée d'une fratrie de 9 enfants, Joacine Moreira a dû enchaîner les petits boulots dans sa jeunesse pour pouvoir mériter le droit d'étudier. Fondatrice et présidente de IMUN, Institut de la Femme Noire au Portugal, l'historienne Joacine Moreira est impliquée dans les questions de lutte contre le racisme, le colonialisme et l'esclavage. Elle a ajouté à sa liste de caractères minoritaires son handicap d'élocution.
Au début de mon engagement, je pensais vraiment que les gens avaient devant eux une personne appartenant à une minorité. Mais en réalité, avec mon bégaiement, j'appartiens à un vaste univers de minorités. Nous ne sommes que 1% de la population mondiale. Et en plus, 98% des becs sont des hommes.
Son bégaiement fait l'objet de railleries au Portugal, où on l'imagine mal haranguer ses homologues à l'Assemblée. Pourtant, de ce handicap, Joacine Moreira a fait un avantage. En l'assumant comme elle l'assume, ses autres différences, elle impose un regard nouveau sur un pan de la société portugaise que beaucoup aimeraient voir enterrer. L'esclavage, le colonialisme, le racisme ordinaire. Joacine Moreira, moqueuse, dit aussi que malgré toutes ces minorités, elle appartient à la grande majorité de ceux qui gagnent peu, travaillent beaucoup et ne sont jamais sûrs du lendemain. Mener campagne à la tête d'un parti de gauche progressiste lui va bien, sa couleur de peau est cependant toujours montrée du doigt.
C'est assez drôle de voir que des personnalités et des médias sont super révoltés parce que je me présente moi-même comme femme et noire. C'est vraiment absurde. Comme si j'avais eu la moindre chance d'oublier que je suis d'origine africaine. Mais maintenant que j'ai l'arrogance de prétendre à devenir députée, on voudrait que j'oublie que je suis une femme noire et que je n'utilise pas de référence à mon appartenance à la race noire, au prétexte que nous sommes tous humains.
Malgré les sarcasmes, la campagne électorale de Joacine Moreira et du Livre a été une réussite. Cela suffira-t-il à faire élire comme députée pour la première fois une femme noire diplômée et bègue ? Verdict dimanche 6 octobre.
On reste encore un peu au Portugal avec notre rendez-vous hebdomadaire avec le magazine Courrier International. Bonjour Ingrid Terwatt.
Bonjour Léa-Lisa Westerhoff.
Cette semaine, c'est avec vous que nous passons en revue quelques articles de la presse européenne. Et pour commencer, cette une, Portugal, le nouvel Eldorado. Pourquoi avoir choisi de consacrer votre numéro à nos voisins portugais ?
Bien, d'abord parce que les élections législatives vont avoir lieu le 6 octobre au Portugal et que le gouvernement sortant, qui est de gauche, pourrait remporter la majorité absolue. C'est assez rare et cette actualité nous a donné envie de nous pencher sur un pays qui apparaît comme un havre de stabilité et qui attire de plus en plus de Français, mais pas seulement des Français. Aujourd'hui, le Portugal est pour beaucoup un nouvel Eldorado. C'est en tout cas ce que dit le Financial Times à Londres, pour qui c'est le pays le plus accueillant d'Europe.
Et ce n'est pas rien. Sur quels chiffres s'appuie le Financial Times ?
sur des chiffres très sérieux, notamment ceux du Global Peace Index de 2019. Et selon ces chiffres, le Portugal est le troisième pays le plus pacifique du monde, après l'Islande et la Nouvelle-Zélande. Tout y est. Sécurité, paix sociale, opportunités économiques, climat agréable. À vrai dire, le tableau fait plutôt envie. Mmh. D'ailleurs, l'année dernière, le nombre de résidents étrangers au Portugal s'est accru de plus de 93 000 personnes, passant à presque un demi-million. Alors, Chitra Stern, qui est une Singapourienne de nationalité britannique et qui s'est installée en Algarve, est enthousiaste. Elle raconte au Financial Times que, je la cite, « le Portugal est la société la plus ouverte, la plus tolérante et la plus libérale où elle a jamais vécu ». Alors en fait, le taux de natalité est très faible et le Portugal a absolument besoin d'immigrer pour maintenir son bon taux de croissance. Et pour y arriver, diverses incitations comme un visa en or ont été mises en place pour attirer les investisseurs étrangers. Alors, ça explique cet afflux. Mais en même temps, ça crée des tensions. Les locaux et les classes populaires sont évincés des centres-villes car les loyers flambent. On constate donc un phénomène de gentrification et même l'existence d'une bulle immobilière.
Mais alors, malgré ces tensions que vous décrivez, Ingrid, le Portugal semble résister aux sirènes du populisme. Comment ça s'explique ?
Alors, justement, c'est M. Teixeira, ancien ministre de la Défense socialiste, qui apporte une réponse dans les colonnes du journal Publico à Lisbonne. Selon lui, je le cite, « avec ses frontières tracées et stables depuis plus de 800 ans, sa relative unité ethnique et linguistique et la question des autonomies régionales résolues, le Portugal ne possède pas d'identité infranationale susceptible d'ouvrir une brèche à un populisme régionaliste ou séparatiste comme celui de la Ligue de Salvini en Italie. » Alors en fait, le Portugal est une terre d'accueil avec des programmes d'intégration plutôt efficaces. Il n'a jamais été touché par des attentats terroristes. L'opinion publique a plutôt une bonne image de l'Europe. Tout ça, ce sont des facteurs clés. Alors, pour l'ancien ministre, ça ne veut pas dire non plus que les Portugais ne sont pas racistes ou qu'ils tolèrent mieux que les autres les inégalités ou la corruption. Non. Ce que ça signifie, c'est que les conditions politiques actuelles ne sont pas propices à la flambée du populisme, comme on peut le constater ailleurs en Europe.
Alors restons au sud de l'Europe, mais partons maintenant du côté de l'Espagne avec cette polémique sur l'héritage du dictateur Francisco Franco.
Oui, depuis sa mort en 1975, les restes du caudillo se trouvent dans un gigantesque mausolée. Ce mausolée a été construit dans des conditions terribles par des prisonniers majoritairement républicains, ses opposants donc. Et le gouvernement veut mettre fin à cette situation et déplacer les restes de Franco dans un cimetière où repose sa femme. La famille de Franco s'y oppose, mais le tribunal suprême espagnol a rendu raison au gouvernement fin septembre. Alors pour le journal El País, c'est une bonne nouvelle qui pourrait, je cite, « mettre un point final à cette histoire ponctuée d'épisodes pour le moins grotesques, démarche à laquelle auraient dû s'associer toutes les forces politiques démocratiques ». A l'inverse, le quotidien conservateur ABC trouve que ce n'est pas du tout une grande victoire pour la démocratie et que les démarches qui avaient été entamées par le gouvernement précédent de José Luis Rodríguez Zapatero relevaient avant tout de la vendetta personnelle parce que le grand-père de Zapatero avait été fusillé par les franquistes pendant la guerre civile. Et ABC va même jusqu'à défendre la mémoire de Franco qui, je cite ABC, a évité à l'Espagne de vivre une révolution communiste et de tomber sous le joug d'une dictature rouge et qui avait, je cite à nouveau, pris des initiatives économiques courageuses. La famille appréciera certainement les victimes et leurs descendants beaucoup moins.
Merci beaucoup Ingrid Terwatt. Ces articles, vous pouvez les retrouver dans Courrier International. À bientôt Ingrid.
À bientôt.
Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul.
Et oui, vous l'aurez peut-être reconnu, le très célèbre générique du dessin animé Maya l'abeille. Son auteur, le chanteur tchèque Karel Gott, est mort ce mardi à l'âge de 80 ans. Vedette nationale, voire internationale en Allemagne et en Russie, Karel Gott devait au départ avoir droit à des funérailles nationales à Prague, avant que le gouvernement tchèque ne se ravise et fasse machine arrière suite à une polémique. Ce seront donc finalement des funérailles avec des honneurs nationaux, c'est-à-dire un cran en dessous, qui seront organisées vendredi prochain. À Prague, Alexis Rosenzweig nous explique pourquoi.
Des funérailles nationales, seul Václav Havel, l'ancien dissident devenu président, a eu droit à un tel honneur en 30 ans depuis la chute du communisme à Prague. Et c'est là que le bas blesse pour certains, qui estiment que Karel Gott a roulé pour le régime communiste pendant la plus grande partie de sa carrière et que lui organiser une cérémonie nationale est un manque de respect flagrant pour tous les dissidents et les artistes qui ont souffert du totalitarisme. Marta Kubišová est l'une des plus célèbres de ces artistes que le régime a tenté de museler. Elle révèle que Karel Gott lui a souvent répété qu'il regrettait de ne pas les avoir soutenus, elle et les dissidents d'alors, cloué au pilori dans un manifeste punitif signé à la fin des années 70 par le chanteur docile Karel Gott, que l'écrivain tchèque exilé Milan Kundera traitait d'idiot de la musique dans un de ses livres. La polémique de ces dernières heures prend un relief particulier à Prague, également à cause du profil de l'actuel Premier ministre, le milliardaire Andrei Babiš, qui figure sur la liste des agents de l'ancienne police communiste et que ses pourfendeurs accusent de vouloir récupérer politiquement toute cérémonie dédiée aux chanteurs. Quant au président de la République, Miloš Zeman, il a décidé de mettre tous les drapeaux en berne en hommage à Karel Gott, mais aussi de bouder ostensiblement tous les événements organisés pour le 30e anniversaire de la Révolution de velours au mois de novembre prochain.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
C'est vendredi et l'heure de notre rendez-vous avec Vincent Teval pour la musique. Bonjour Vincent.
Bonjour Léa-Lisa.
Vous nous parlez aujourd'hui du groupe danois Efterklang en pleine expérimentation de nouvelles sonorités.
En 2014, après 10 années bien remplies par 4 albums et des tournées à répétition, le groupe danois Efterklang décidait de s'offrir une pause, une parenthèse à durée indéterminée, consacrée à d'autres projets, d'autres collaborations. Les 3 musiciens ont notamment écrit un opéra, puis 2 d'entre eux ont monté un autre groupe, Lima, et en 2017, le trio a répondu à une invitation à composer pour l'ensemble belge Box, qui joue de la musique contemporaine avec des instruments baroques. Les compositions imaginées à cette occasion par les Danois vont servir de base au 5e album d'Efterklang, Altid Zamen, qui vient de paraître, soit 9 chansons amples et douces, interprétées pour la première fois en danois, où le groupe trouve un bel équilibre entre sonorité synthétique et organique.
Verlengen, verkleed af en smoot. Sauna du noget. Dagene driver, forsvinder for evigt. En sjæl i det blå til tider. Vi er forelsket nu. Vi er forelsket. Altid os sammen om at dele os. Vi er uendelige. Du forstår, vi skændes om.
Et on se quitte avec Efterklang. Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Pour nous écouter, nous retrouver, rendez-vous sur RFI.fr. Bon week-end et à lundi.